Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition du 15 février 2020 de Nouvelles du Haut-du-Lac. En manchette cette semaine, un centre de services scolaires remplace la commission scolaire du pays des Bleuets. Festineige fêtera ses 21 ans le 22 février et Albanel veut dynamiser son cœur villageois. Un centre de services scolaires remplace la commission scolaire du pays des Bleuets. Depuis lundi dernier, la gouvernance sur le territoire de l'ex-commission scolaire du pays des Bleuets est confiée au centre de services scolaires dont l'intérim est assuré par le directeur général de l'ex-commission scolaire, M. Sylvain Ouellet. En entrevue téléphonique, M. Ouellet a ainsi indiqué les principales étapes qui conduiront à la mise en fonction de la nouvelle unité de gouvernance sur le territoire de l'ex-commission scolaire.
D'ici le 1er mai, on a commencé déjà encore hier en rencontrant le comité de parents, on doit mettre en place les actions pour former un premier conseil d'administration. Donc, on a ce conseil d'administration-là, il va falloir qu'il soit formé avant le 15 juin de cette année, la date limite pour placer un conseil d'administration en bonne et due forme, c'est le 15 juin. À partir d'hier soir, déjà, on travaille déjà sur une première opération. C'est qu'avant la commission scolaire, bon, on avait des élections au suffrage universel. Là, on passe à un conseil d'administration qui est constitué un de 5 parents venant qui sont désignés par le comité de parents, qui seront désignés par le comité des parents, qui est toujours là en place, 5 membres du personnel et 5 membres de la communauté provenant de 5 sphères de la communauté, entre autres une place pour les jeunes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un membre de la communauté qui ait entre 18 et 30 ans, c'est une exigence de la loi. Un membre de la communauté qui vient du milieu social communautaire, un autre qui vient du milieu économique, un autre qui vient du milieu de la santé et un dernier qui vient du milieu du sport, des loisirs et des arts. Il y aura aussi 5 membres du personnel, c'est-à-dire un représentant du personnel technique, un représentant du personnel professionnel, des enseignants, des directions d'école et des cadres scolaires, qu'on appelle les cadres administratifs. Donc, ces 15 personnes-là, donc au départ, 5 parents, 5 membres du personnel auront à faire une recherche pour coopter 5 membres de la communauté.
Par ailleurs, les activités et décisions se rapportant à la gestion quotidienne du centre de services scolaires ne sont en rien changées avec la disparition de la commission scolaire. Monsieur Ouellet précise comment l'administration quotidienne et l'organisation scolaire pour la prochaine année se déroulera au cours des prochains mois.
J'étais réuni avec tous les directeurs d'école et nos gestionnaires. On est 52 pour tout le territoire. Puis écoutez, on va continuer à faire, nous, ce qu'on fait avant, c'est-à-dire faire l'école du mieux que l'on peut, donner le meilleur service à nos élèves, à nos communautés, répondre aux besoins des enfants, répondre... on est quand même aussi, les écoles sont aussi un milieu de travail très réglementé par et très conventionné, donc il faut répondre à ces exigences-là. On va continuer à faire ce qu'on fait. Ce matin, je dois vous dire que j'ai pas beaucoup de changements dans ma tâche et dans les tâches de direction d'école ce matin.
Festineige fêtera ses 21 ans le 22 février. La 21e édition du Festineige au Centre Domiski de Dolbeau-Mistassini se tiendra le samedi 22 février, alors que l'on a décidé de concentrer sur une seule journée les activités et la programmation. La présidente du comité organisateur de l'édition 2020, Mme Mélanie Rondeau, explique pourquoi on a décidé de concentrer sur une seule journée la programmation de cette année, de même que les principales activités que l'on y retrouvera.
Je ne vous cacherai pas que c'est très, très difficile d'avoir des bénévoles. Cette année, on a travaillé étroitement avec la ville de Dolbeau-Mistassini. J'étais en collaboration avec M. Jeannot Tremblay pour cette activité cette année du 21e édition. On a décidé de faire quelques petits changements. En fin de compte, on a mis ça sur une journée. Habituellement, on était sur deux jours, samedi et dimanche. Puis on a offert cette année la gratuité sur une seule journée. On a concentré nos activités sur une seule journée pour permettre à la population de venir à cette journée-là. Il va y avoir le vendredi soir, le 21, un 5 à 7 avec le protocole d'ouverture et une randonnée de raquettes qui est ouverte à toute la population à compter de 18h30 au centre d'Omiski, qui va être gratuite et organisée par M. Guillaume Pétrin. Donc, le vendredi soir, il y a cette activité-là. Sinon, les gratuités dans la fin de semaine commencent le samedi matin, 10h. Avec les jeux gonflables, structures gonflables, ski, snow, planche à neige...
Et glissade?
Pas tout de suite, glissade ou en après-midi.
OK.
Donc, on commence avec les gratuités comme ça. On a cette année l'unité mobile de Toxic Action qui vient présenter à quoi ils servent et des choses comme ça. On a encore le retour des chiens de traîneau qui est très apprécié puis qui est vraiment agréable. Là. Faire des tours de chiens de traîneau, on n'en fait pas toujours. Hein. On a la fête à Domino qui va être à 1h dans l'après-midi avec rassemblement de mascottes, gâteaux géants gratuits pour tout le monde. Ça va être le party à Domino. On offre encore la possibilité à tout le monde de venir, essayer des nouvelles choses. Au domaine skiable. On a encore reprogrammé notre compétition de ski fun qui s'appelle compétition de planche à neige ou de ski, qui a été très appréciée, qui a des prix de présence, prix de participation aussi. On a tout plein de prix à donner encore cette année, autant dans la zone de jeu qui revient avec des activités différentes que dans notre compétition.
Dans un souci de mettre de l'avant les recettes qui ont permis le succès de participation de Festineige au cours des années, Mélanie Rondeau rappelle que l'instauration d'un transport par autobus sur le site des activités sera de nouveau en place le 22 février.
L'année passée, on était en test pour les autobus. On appelle ça une année test. Cette année, on refait la même formule qui a été vraiment gagnante. Un autobus qui fait seulement Mistassini, Arena de Mistassini et Domiski. Et l'autre autobus qui fait Hôtel de Ville d'Olbeau, Salle des Cœurs Vaillants et Domiski. Donc, le transport est beaucoup plus rapide pour tout le monde.
Donc, ça se fait en navette, là. C'est-à-dire que c'est de façon continue, là. Il n'y a pas nécessairement juste une heure de départ et une heure d'arrivée.
Non, non, il y a plusieurs heures de départ. À toutes les demi-heures, il y a des heures de départ. Soit au chaque endroit précise.
Albanel veut dynamiser son cœur villageois. Une démarche de dynamisation du cœur villageois entreprise par le comité de revitalisation d'Albanel s'est amorcée la semaine dernière avec une rencontre avec l'organisation rue principale à la mairie d'Albanel. C'est à la suite de la fermeture de plusieurs commerces et aux travaux importants prévus sur la rue de l'Église par le MTQ l'été prochain que le conseil municipal d'Albanel a décidé à l'automne 2019 de former un comité de travail pour dynamiser son cœur villageois et attirer de nouvelles entreprises. Celui-ci est composé de la mairesse, d'élus et d'employés municipaux, d'entrepreneurs, de citoyens engagés et de partenaires locaux. Avec le soutien de la Société d'aide au développement de la collectivité Maria Chapdelaine, le comité a choisi de faire appel à Rue Principale, une organisation spécialisée dans l'accompagnement au dynamisme des cœurs de collectivité pour le guider afin dans ce processus de planification stratégique. Parmi les axes ciblés, le développement commercial, l'aménagement et le design, la vitalité de la communauté ainsi que le marketing du territoire. Pour réaliser ce processus, deux événements de consultation publique auront lieu dans les prochains mois afin de recueillir un maximum d'informations. La plupart des entreprises situées dans le cœur villageois et aux alentours ont déjà été rencontrés individuellement. Par cette initiative, le conseil municipal souhaite faire du cœur villageois un lieu rassembleur pour la population. Une quatrième édition du concours en entrepreneuriat et développement durable du Cégep de Saint-Félicien. Le département des techniques du milieu naturel du Cégep de Saint-Félicien a tenu la 4e édition du concours en entrepreneuriat et développement durable à la place centrale du collège devant plus de 250 personnes. À cette occasion, les finissants et finissantes en technique du milieu naturel ont présenté 21 projets réalisés dans le cadre du cours « Développement durable » aux étudiants et étudiantes de deuxième année et à un jury constitué d'acteurs importants œuvrant dans différentes sphères du développement durable et de l'entrepreneuriat régional. Cette année, deux équipes d'étudiants en technique du milieu naturel du Centre d'études collégiales à Chibougamau ont présenté leur projet dans le cadre de l'événement. Le prix « Développement durable » et une bourse de 1 $ a été remis à l'équipe « Les incendies » au Centre d'études collégiales à Chibougamau. Ce projet a pour but de réduire le gaspillage alimentaire en récupérant les invendus dans des supermarchés et en sensibilisant la communauté étudiante. L'équipe Écologie intergénérationnelle a reçu le deuxième prix de développement durable et une bourse de 500 $ pour leur projet qui a pour but de tisser des liens entre les générations en utilisant l'écologie au cœur de leur action. Le prix entrepreneuriat et une bourse de 250 $ a été décerné aux étudiants du projet de la coop Abioki qui vise à créer des emplois étudiants ainsi que de mettre en place et gérer des initiatives rassembleuses comme le café étudiant. Les membres du jury ont décerné un prix communication et une bourse de 250 $ au projet Ma grosse truite chérie. Ce projet avait notamment pour but d'améliorer l'habitat de l'omble de Fontaine de la petite rivière Euseb de Saint-Félicien. L'équipe a également gagné le prix coup de cœur du public. Finalement, l'équipe du projet Alimaculture a remporté les prix Sciences avec une bourse de 250 $. Alimaculture vise à expérimenter la culture de légumes en serre passive et de les distribuer aux étudiants du cégep. Rappelons que le cours Développement durable existe depuis 2007 afin de permettre aux étudiants et étudiantes en technique du milieu naturel d'expérimenter le développement durable. Ce cours s'échelonne sur 3 sessions et permet aux étudiants et étudiantes de concevoir, de mettre en œuvre et de promouvoir des projets en développement durable. Un cours unique au Québec, tout comme le programme technique de milieu naturel. Studio Fusion devient une coopérative de solidarité. La coopérative de solidarité Studio Fusion se portera acquéreur des installations du Studio Fusion Corps et Esprit, propriété de Mme Annie Bouchard-Mercier, au cours des prochaines semaines, alors que l'on est à compléter le recrutement de membres de la coopérative. La propriétaire du Studio Fusion Corps et Esprit, Mme Annie Bouchard-Mercier, précise pourquoi elle a décidé d'offrir à une coopérative de solidarité la propriété de son entreprise.
2019, donc la coop existe actuellement. On est presque en train d'opérer là, au niveau de la coop. Dans le fond, on est rendu au financement pour vraiment avoir l'acquisition d'équipements puis bonifier aussi ce qui est déjà au studio. Donc, ce qui nous manque actuellement, c'est des membres. On a un objectif de 350 membres, puis c'est déjà bon. On a atteint 66 % de notre objectif. On est à 231 membres actuellement. Ce qu'on veut, c'est inviter les gens, dans le fond, à devenir membres pour encourager l'offre d'entraînement en groupe de qualité. Puis, on offre vraiment une variété d'entraînements aussi qui vise un petit peu monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment pour tous les hommes et femmes adultes. On a des cours d'intensité variés. On veut que les gens viennent s'entraîner pour se sentir bien. Donc, il n'y a aucune compétition au studio. Ça fait partie de nos valeurs là, d'être professionnel, sécuritaire et également d'avoir du plaisir. C'est ça, le déterminant clé du fait qu'on va venir s'entraîner, c'est qu'il faut que ce soit le fun.
Par ailleurs, la nouvelle coopérative qui sera présidée par Mme Joanie Pronovo, M. Guy Leblanc comme vice-président, Véronique Côté comme secrétaire trésorière et les administratrices Annie Bouchard-Mercier, Nicole Savard, Amélie Paquette et Christine Sauvageau, s'est donné comme objectif de regrouper 300 membres pour le bon fonctionnement du studio. Annie Bouchard-Mercier explique les avantages de devenir membre de la nouvelle coopérative.
Si vous êtes intéressé à devenir membre, c'est au coût de 10 $. C'est une fois à vie, dans le fond, vous devenez membre. Puis ça vous donne le droit à un cours découverte. Donc, vous pouvez venir suivre un cours gratuitement, finalement, au studio. Et ça vous donne aussi la possibilité de participer aux assemblées. D'ailleurs, on a déjà commencé à former quelques comités là, avec qui je travaille actuellement, comme le comité des horaires, si vous voulez vous impliquer. Bon, ben c'est quoi les cours que vous avez le goût d'avoir ici à Dolbeau-Mistassini? Est-ce qu'on veut un nouveau cours qu'on a vu en promotion ou dans des publicités. Donc, ça donne ça. Puis aussi, ça donne le droit, entre autres, aux activités spéciales gratuites. Des fois, il y a des petits tarifs spéciaux pour les membres. Donc, tranquillement, là, ça se développe, là, tous les avantages membres. Puis, c'est une façon de nous soutenir aussi dans notre projet là, de coop.
Le projet GNL Québec et la construction d'une usine de refroidissement de gaz naturel à Saguenay avec le projet Énergie Saguenay, projet évalué à 7,2 milliards de dollars, connaîtra dans les prochains mois une étape importante pour sa réalisation alors que les audiences du BAP devraient s'amorcer au cours du mois de mars. Le projet ne fait pas l'unanimité quant à son acceptabilité sociale. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les porte-paroles de GNL estiment que les audiences permettront à l'entreprise de faire connaître les avantages de la réalisation de ce projet. Le directeur de développement régional à Énergie Saguenay, M. Stéphane Tremblay, était de passage à Dolbeau-Mistassini cette semaine pour faire la promotion du projet qualifié d'investissement le plus important de l'histoire du Québec. Stéphane Tremblay a ainsi présenté en quoi consiste le projet, les retombées en termes de recherche pour la diversification des sources énergétiques et les principales étapes à venir pour la réalisation du projet. Monsieur Tremblay, on parle beaucoup du projet GNL Québec depuis maintenant tout près d'un an. Où est-ce qu'on l'a plus particulièrement? À titre de responsable de l'implantation de ce projet-là dans la région, est-ce que vous pourriez nous indiquer en quoi ça consiste quand on parle de GNL Québec?
L'usine de GNL Québec, là, si je veux verbaliser, c'est comme un gros congélateur qui va prendre du gaz naturel sous sa forme vapeur, du gaz naturel qui va arriver de l'Ouest canadien dans une conduite souterraine et qui va le refroidir. Puis quand on le refroidit, il devient liquide. Et quand il devient liquide, c'est la manière de le transporter outre-mer. Il y a beaucoup de pays dans le monde, et c'est absolument pas une réalité au Québec, où il y a utilisation de charbon dans les procédés industriels et dans la production d'électricité. Donc, le gaz naturel peut être utile pour tasser le charbon et réduire les émissions de gaz à effet de serre et les particules dans l'air. L'autre avantage majeur en étant au Québec, c'est qu'on a l'hydroélectricité. Donc, les compétiteurs de GNL Québec actuellement dans le monde vont utiliser leur propre gaz naturel pour faire fonctionner le congélateur, si on peut dire. Nous, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité, donc d'amener des revenus à Hydro-Québec et en plus de réduire énormément, jusqu'à 85% les émissions de gaz à effet de serre. Donc, globalement, là, le projet, c'est de prendre le gaz naturel de l'Ouest canadien et de le rendre accessible au reste de la planète.
Quand on parle maintenant en termes d'investissement, ça peut représenter quoi?
Ouais, l'usine de GNL Québec, c'est un investissement d'environ 9 milliards de dollars pour l'usine. Et on peut probablement ajouter, il faudrait voir, là, 4 milliards pour le gazoduc. Ce qui est en fait le plus gros projet en termes de capitaux de l'histoire du Québec. Et c'est dans notre région. Moi, je pense que toute la région, que ce soit de Maria-Chapdelaine à Petit-Saguenay, doit être capable de voir et de saisir les opportunités, parce qu'il y aura des opportunités lors de la construction. Ça amène aussi une diversification en termes de filières énergétiques. Mais un autre atout, c'est que le GNL, ça peut se transporter par camion. Alors, imaginons un endroit dans le haut du lac où on voudrait implanter une usine majeure et qu'on n'a pas accès à un gazoduc. Ben, ça deviendrait possible de dire, on se met un réservoir de GNL, on va chercher du GNL par train ou par camion à l'usine et on approvisionne une usine qui, au lieu de consommer du Bunker C ou du diesel, pourrait consommer un carburant fossile à moindre intensité carbone. Donc, réduire les gaz à effet de serre et aussi moins cher.
Votre implication à l'intérieur de ce projet-là, avec quand on vous connaît, on sait que vous avez été un artisan de toute la question environnementale aussi au Québec. Pour vous, vous l'avez souligné ce matin, l'importance pour vous, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire qu'un projet de cette nature-là puisse avoir carboneutre. Dans ce sens-là, est-ce que il va y avoir encore des émissions de carbone qui vont être émises naturellement par cette usine-là? Est-ce que il y a des actions que vous entendez mettre de l'avant pour voir si on n'est pas capable de réduire encore ça?
Une usine similaire à GNL Québec ailleurs dans le monde, qui n'est pas à l'hydroélectricité, émettrait 3 millions de tonnes. Nous, avec l'hydroélectricité, on est à 400 000 tonnes. Malgré ça, et puis là, ben l'hydroélectricité nous permet de faire le prochain pas, c'est de dire le 400 000 tonnes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre carboneutre? C'est-à-dire, ce qu'on n'est pas capable de réduire à l'usine, est-ce qu'on pourrait payer pour faire des activités qui, eux, vont absorber des GES et équivaloir ce qui est émis à l'usine? Donc, être zéro. Donc, on est en train de faire de la recherche, puis on a déjà fait une première recherche avec Claude Villeneuve de la chaire éco-conseil à l'UQAC pour voir comment il pourrait nous aider, qu'est-ce qu'il pourrait nous suggérer comme piste de solution pour atteindre la carboneutralité. Dans ces pistes-là, il y en a une qui est intéressante pour la région, c'est le gaz naturel renouvelable forestier. Alors là, il y a un autre professeur qui lui a dit, ben moi ça m'intéresse de travailler dans un projet comme ça parce que je pense que le gaz naturel renouvelable se mélange très bien au gaz fossile. Et là, c'est à nous, comme régionaux, de voir comment on est capable d'en produire. Et là, on est en discussion avec une compagnie, notamment, qui a développé une technologie fort prometteuse qui transforme la matière forestière en gaz naturel renouvelable. Donc ça, ce gaz-là, il peut être envoyé dans le gazoduc ou à l'usine pour être liquéfié. Mais nous, ce qui va servir, c'est de produire le crédit carbone qu'on a de besoin pour être carboneutre. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que si on est capable d'amener la connaissance et les technologies qui peuvent faire ça, ben on doit se poser la question comme région forestière, est-ce qu'éventuellement, on ne devra pas réfléchir à aménager notre forêt pour, par exemple, recueillir les résidus de coupe? Donc, augmenter les revenus, amener un nouveau débouché. Donc, c'est une nouvelle filière énergétique renouvelable dans notre région potentiellement. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup comme régionaliste.
Est-ce qu'au niveau du projet, on entend investir des sommes, justement, au niveau de cette recherche-là, une fois que le projet va être mis de l'avant?
Bien, déjà, on a annoncé un investissement de 350 000 pour la chaire de recherche. Récemment, au mois de janvier, j'étais à Vancouver avec un des chercheurs où nous avons testé trois types d'essences forestières pour voir c'est quoi le rendement en termes quantité de biomasse versus la quantité de gaz naturel. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire encore, mais le levier de la carboneutralité, parce que la GNL Québec va investir de l'argent pour être carboneutre, c'est des plusieurs millions de dollars, mais ces millions de dollars-là, ils deviennent accessibles dans la région pour développer de la recherche et de la connaissance. Donc, où est-ce que ça va nous mener? C'est dur à dire, mais on sait au moins que notre objectif pour nous, c'est d'avoir peut-être une usine pilote éventuellement qui produirait des crédits carbone et par le fait même amènerait des nouvelles connaissances.
Merci beaucoup, M. Tremblay.
Merci beaucoup.
Le Centre d'action bénévole Barrière-Chapdelaine recherche des personnes pour démarrer un nouveau service de bonjour, bonsoir quotidien. Voulez-vous faire la différence dans la vie d'une personne qui vit de l'isolement? Vous disposez d'un peu de temps quotidiennement? Pour en savoir davantage, contactez le Centre d'action bénévole au 418-276-1211. Qualification pour l'équipe régionale des Jeux du Québec à Domiski. Le 8 février dernier, se tenait au centre Domiski de Dolbeau-Mistassini une compétition régionale en ski de fond en vue de la participation de la région aux Jeux du Québec à l'hiver 2021. Pour l'occasion, des fondeurs et fondeuses de divers clubs de ski de fond de la région se sont donné rendez-vous sur les pistes de Domiski. On y retrouvait ainsi les adeptes du ski de fond des clubs Norski, le Norvégien et le Jackrabbit. Pour la qualification pour les Jeux du Québec, les membres du club Norski de Dolbeau-Mistassini ont été dans la catégorie M12 filles, Maxime Dion avec une première place et Noémie Lambert qui a terminé en troisième place. Dans la catégorie M14 filles, Sandrine Dion a terminé en deuxième place. Dans la catégorie M14 garçons, Siméon Roy a terminé en deuxième place, alors que dans la catégorie M16 garçons, Cédric Lambert s'est mérité la troisième place. L'entraîneur du club de ski de Dolbeau-Mistassini, M. Denis Bouchard, a ainsi commenté la tenue de cet événement sportif.
C'est ça, ce matin à Domiski, on a la finale régionale des Jeux du Québec en ski de fond. Ça regroupe des jeunes de 12 ans à 16 ans en majorité. Puis on a un volet adulte aussi après 11h30. Les catégories qui vont aux Jeux du Québec, c'est des jeunes de 12, 13 et 14 ans. C'est ça. Ici, dans le club Norski, on a quelques-uns. On va en avoir 5 okay, qui vont participer. Le reste vont venir du club de Jonquière, OK, en majorité, là, parce qu'on a deux clubs de la région qui regroupent des jeunes comme ça. C'est la deuxième année d'affilée qu'on organise ça, la finale régionale. On est fiers de ça. OK. Ici, le centre, on a une très belle participation. Ils nous aident beaucoup. Ils collaborent à cet événement-là.
Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à l'édition du 15 février 2020 de Nouvelles du Haut-du-Lac. Nous vous invitons à être des nôtres la semaine prochaine pour un autre résumé de l'information locale sur le territoire de Maria-Chapdelaine.
Elle a plein de métiers en elle. Aidez-la à découvrir tout ce qu'elle peut devenir.